Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Quand elle était lycéenne, un job d'été l'a amenée à décrire des films pour un aveugle. C'est comme ça qu'elle s'est mise à écouter autrement. Et c'est là qu'elle a compris que la voix donnait parfois une idée plus juste des gens que leur apparence. À un moment donné, elle dit qu'elle a même espéré devenir aveugle. À la fin, elle a trouvé la radio. Elle, c'est Inès Leroux, à qui nous tressons les lauriers cette semaine dans ses pieds sur terre quartier d'été, que nous avons choisi de présenter à travers le regard de ceux qui les font. Productrice, reporter, auteur, journaliste, enquêtrice, appelez son job comme vous voulez, tant qu'Inès Leroux tourne ses documentaires qui sont parmi les plus beaux, les plus fins, obstinés et toujours plus engagés au fil des années contre les pesticides, les algues vertes, les mauvais traitements aux animaux, les ondes électromagnétiques. Cette semaine, en 5 volets, c'est pourtant une autre veine l'héraldienne que nous explorons, la veine sensible, intime, enfantine, allez, disons-le même, poétique du travail d'Inès. On commence aujourd'hui avec la sensibilité au sens propre.
J'ai eu des picotements cutanés au départ, et puis ensuite ça a gagné tout le visage, et j'ai eu des sensations de brûlure sur la peau. Mais en tout cas, je sens beaucoup de chaleur dans ma tête, énormément de chaleur. C'est pour ça que l'hiver, même s'il fait moins 10, moins 15, je ne porte pas de bonnet, parce que j'ai une sensation de chaleur qui est maintenant quasiment constante. Parce qu'à chaque fois que je sors, je sens les ondes. Je suis au fond de cette grotte, terrée au fond de ces grottes, parce que je suis allergique aux champs électromagnétiques. Moi, je ne veux pas attendre que la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité se fasse. Je ne veux pas qu'on attende que le lien de causalité soit établi. Je veux une zone blanche maintenant, parce que je suis au fond de ma grotte et que je veux en sortir, voir la lumière, respirer l'air pur, voir le soleil, etc., et avoir des activités à l'extérieur.
Cela se passe à Beaumugne, dans un hameau perdu au milieu des Hautes-Alpes, tout au fond d'une grotte humide perchée dans la falaise. C'est là que s'est réfugiée Anne, il y a 3 ans, après 6 mois d'errance à la recherche d'une zone blanche, c'est-à-dire une zone dépourvue de champs électromagnétiques artificiels. Anne dit souffrir du syndrome EHS, électro-hypersensibilité. Hors jargon médical, cela signifie qu'elle est sensible aux ondes électromagnétiques émises par les technologies sans fil, qui provoquent chez elle toute une panoplie de symptômes, rendant impossible la vie en environnement urbain. La maladie fait pourtant débat dans le milieu médical. Certains, comme les Suédois, prétendent que le lien entre ces symptômes et la prolifération des ondes électromagnétiques est avéré et reconnaissent l'EHS comme un handicap touchant 2 à 6% de la population d'Europe de l'Ouest. D'autres, comme la plupart des médecins français ou encore ceux de l'Organisation mondiale de la santé, restent plus sceptiques et sont encore nombreux à affirmer que la nocivité de ces ondes n'a jamais pu être avérée scientifiquement. Dans leur grotte, Anne et Bernadette sont aidées par Laure, la fille d'Anne, qui les ravitaille en nourriture du corps et de l'esprit. Elles racontent leurs souffrances bien réelles. Aujourd'hui, dans ses pieds sur terre, quartier d'été spécial Inès Leroux, jusqu'à 14h30 sur France Culture, premier épisode.
C'est l'air glacé.
Alors c'est Beaumugne.
Et il y a encore de la neige.
Mais hier il y en avait bien plus. Ça a vraiment fondu. Hein.
Et là on est à combien de mètres d'altitude?
Là on serait dans les 1000 mètres. Entre 1000 et 1100. Ça c'est les maisons d'Henri. C'est le propriétaire du terrain d'accès à la grotte. Et c'est lui aussi qui a aménagé la grotte. Hein. Et qui donne accès à Anne et Bernadette, à ses commodités.
On va voir votre maman.
Voilà. Donc là, on va monter à la grotte. Il faut bien s'accrocher à la corde. Voilà.
C'est une échelle en métal.
Et après, tout le long, c'est cordé comme ça. Donc, c'est bien, il faut rester, essayer d'avoir une main toujours sur la corde, parce que ça peut glisser, surtout en fondant. La montée, elle fait une quinzaine de mètres, quoi, hein, c'est pas. Ouais. C'est à manger ?
Bonjour. Donc, c'est ma mère. Et Bernadette, bonjour.
Donc voilà, il y a un grillage là qui était installé pour atténuer en fait les champs électromagnétiques. Donc on peut rentrer. Bon voilà, là c'est boueux parce que ça s'est radouci et la neige fond. Donc il y a des ruissellements sur le plafond de la grotte. Et puis au sol, c'est mouillé et boueux. Donc on a installé des poutres en bois pour qu'on puisse justement passer d'un point à l'autre sans mettre les pieds dans la boue quand il pleut. C'est une grotte qui a 15-20 mètres de profondeur. Et puis là, on arrive dans l'espace où on dort. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle... la zone blanche, voilà, parce que c'est l'espace où il n'y a pas de pollution électromagnétique. Alors en fait, il y a une bâche plastique au plafond, justement, pour protéger des ruissellements. Il y a 3 lits.
Et il fait combien, là, au fond de la grotte ?
Entre 6 et 8 en ce moment.
Sur le thermomètre, on voit 8.
Voilà. Ma mère est tombée malade en janvier 2009 et moi je suis venue la rejoindre en mars 2009. Quand ma mère est tombée malade, j'étais étudiante à l'université de Bourgogne à Dijon et je me rappelle d'avoir eu le père de ma sœur au téléphone, ne sachant plus quoi faire de ma mère, qui errait dans la rue tellement elle était mal, quoi, elle savait plus où se mettre. Voilà. Et moi, je me rappelle qu'elle m'a demandé de trouver des informations, qu'elle voyait qu'elle captait les sources électromagnétiques, que pour elle, c'était la cause de ses symptômes, et qu'elle m'a demandé de faire des recherches, en fait. Voilà. Je refais un tout petit peu le feu. Enfin, je le réactive un petit peu, là. Moi, je m'appelle Laure Birgi, et j'ai 25 ans. Mais là, en fait... on est dans la maisonnette, qui est en contrebas de la grotte. C'est la pièce que j'habite en ce moment. Un endroit assez agréable. En tout cas, comparé à la grotte, c'est chauffable et c'est sec.
Ben, je m'appelle Elisa. Je suis la fille de Anne. Et en ce moment, je suis en vacances, donc je suis allée la voir. Quand ma mère est devenue électrosensible, elle a commencé par ne plus tolérer d'être sur son lieu de travail où il y avait la Wi-Fi. Ensuite, elle s'est sensibilisée et elle tolérait plus d'être dans notre quartier, donc aussi dans notre appartement.
Vous aviez quel âge déjà ?
J'avais 16 ans. Et donc moi, je vivais avec ma mère depuis toujours dans un immeuble HLM où... il y avait des antennes relais sur des immeubles en face, assez proches. 7 visibles en tout cas.
Vous vous glissez sous la couverture ?
On a moins froid. J'ai 3-4 pullovers en laine et une écharpe. Et des chaussettes bien chaudes. Et là, ça va. Sous les couvertures, ça va. Par contre, je sens un peu le... Ouais.
Mais, vous sentez le micro ?
Ouais, je sens un peu le micro, mais bon, ça, je vais tenir, hein, y a pas de problème. Moi, j'ai basculé parce que ça a été brutal. Hein. Dans l'électro-hypersensibilité, début janvier 2009, ça a commencé par des légers tiraillements. J'avais même l'impression par moment d'être aimantée, mais sans grande douleur. Donc, je n'y ai pas prêté attention. Et après, ça a gagné tout le crâne, c'est-à-dire qu'il y a une rigidité au niveau de la nuque qui a gagné l'ensemble du crâne. Et c'est la pression qui m'a fait quitter mon travail. J'avais les veines du cou gonflées, du bras, etc. Et cette pression très forte, qui était intenable,
m'a fait quitter mon travail. J'avais un travail d'agent de service. Je bossais depuis 17 ans en site universitaire. 6 mois avant, des ouvriers, des techniciens installent des bornes Wi-Fi dans les couloirs de la résidence universitaire. Je savais, des bruits circulaient, que, effectivement, les ondes venant de la Wi-Fi, des box Wi-Fi et des antennes n'étaient pas très bonnes pour la santé. Bon. Et puis, ensuite, le temps est passé et on oublie. Et 6 mois après, moi, je commence à avoir quelques symptômes. Et puis, dès que je quitte mon lieu de travail, les symptômes se dissipent. Qu'est-ce qu'il y a sur mon lieu de travail qui me provoque ces symptômes et qui a changé? Et il n'y avait pas grand-chose d'autre que les bornes Wi-Fi. J'en parle à mon directeur, qui m'entend, qui m'écoute, mais qui peut rien faire pour moi et qui me dit « tout ce que je peux faire pour vous, c'est vous donner une semaine de congé ». Et après une semaine, je tente de reprendre le travail. Au bout d'un quart d'heure, j'en peux plus. Donc je retourne voir mon directeur en disant « c'est plus possible, je quitte mon travail, c'est un abandon de poste, mais j'ai pas le choix, quoi. Voilà. » Alors, arrêter mon travail, ça n'a pas suffi. Une fois que j'ai arrêté mon travail, ben, j'allais beaucoup mieux, mais ça n'a pas duré. Ça a duré 2-3 jours, et au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à me sentir très mal dans mon appartement. Et dans mon appartement, en face de ma fenêtre, j'avais quand même 3 antennes relais à 60-80 mètres sur le toit de l'immeuble en face. Et puis aussi, j'avais 4 autres antennes à 100 mètres. Donc en fait, j'avais 7 antennes dans mon quartier. Donc je pense que j'ai dû me sensibiliser au long des années à ces champs électromagnétiques. Et la Wi-Fi m'a fait basculer.
France Culture, les pieds sur terre.
Voilà, donc en fait, moi, j'ai arrêté mes études en février et je suis descendue en mars auprès de ma mère. Voilà, j'ai moi-même déménagé, en fait, hein. Et après, je suis allée chercher ma mère pour la montrer à Paris, comme ça. On est allé à la consultation de la collaboratrice du professeur Bellepomme. Pour elle, ma mère était électro-hypersensible, elle a écouté son témoignage. Avec les résultats, ça le confirmait, quoi. Pour elle, c'était l'électro-hypersensibilité. Et après, on est redescendu sur Dijon pour faire étape chez la famille. Et ça a été, on va dire, le voyage qui a fait basculer son électro-hypersensibilité, encore plus extrême. Et elle sentait sur la route toutes les antennes relais, quoi. Et ça faisait mal, quoi. Enfin, voilà, elle les chopait, donc tout le long du trajet, et ça allait pas. Et là, ma mère... le Paris-Dijon, ça s'est fait dans le coffre de ma voiture, avec des couvertures de survie, pour se protéger, quoi. Et ça a fait la différence.
Là débute mon errance, en fait. Ça a débuté fin janvier 2009 jusqu'à août 2009. Et pendant ces 6 mois, on est à la fois sans arrêt dans la recherche de lieux, et puis en même temps dans la fuite incessante. Et c'est sans fin. Et c'est comme ça que naît en fait l'idée de se réfugier au fond d'une grotte, quoi.
On arrive à Dijon, et là, chez la famille, on pensait qu'elle pourrait peut-être dormir dans la cave. Parce que mes grands-parents ont une cave semi-enterrée et ça l'a pas fait, en fait. Il y avait apparemment un réseau Wi-Fi qui arrivait de loin, de chez les voisins, et bon, bah ça l'a pas fait. Donc on a essayé à Dijon une cave de restaurant, mais ça n'a pas fait non plus. Parce qu'il y avait en haut de cette cave, en fait, un bar où malheureusement il y avait des gens avec des portables, quoi, donc ça le faisait pas. Donc ma mère s'est retrouvée à un moment donné à dormir dans une cave de restaurant, avec quand même une marmite sur la tête, quoi. Non mais voilà, c'est pour faire casque, et ça l'a soulagé, hein, dans l'immédiat. Donc, ça n'a pas fait. Et puis là, il fallait trouver une autre solution pour qu'elle puisse séjourner. Et moi, j'ai un ami près de Dijon qui a une ferme, et à côté de cette ferme, il y a une grotte. Bon, rien à voir avec la grotte où ma mère habite, là, de Beaumugne, hein. Pas du tout, c'est pas une grotte de falaise, c'était un boyau sous terre Fallait même ramper pour y aller, quoi. Donc ma mère, finalement, elle a passé plusieurs après-midi à se soulager dans cette grotte, quoi. Et ça a marché. Un à un, ses symptômes sont tombés, quoi. Et elle a compris que, ouais, voilà, il fallait vraiment s'extraire des champs, quoi, pour que ça marche, ne plus avoir de souffrance.
Ça s'appelle la soupe de Lise.
Une soupe, la bougie.
C'est dingue, ça goûte beaucoup plus que tout à l'heure.
C'est que ça fond, la neige fond, donc l'eau traverse la roche et ruisselle. C'est un genre de goutte à goutte, mais il y a eu des périodes où il y avait tellement d'eau que la grotte ressemblait à une passoire et le bruit était assourdissant.
Avec des fracas de stalactites, de glace.
Dans la grotte ?
Pas dans la grotte, mais au devant de la grotte. Des stalactites énormes, géantes. Et là, à la fonte des neiges, ils se fracassent les uns contre les autres. C'est terrifiant. Au début, après on s'habitue. Je suis Bernadette Touloumont.
Et donc là, maintenant, dans la grotte, vous dormez côte à côte avec Anne.
Voilà.
Vous êtes en cohabitation toutes les deux.
Oui, bien sûr. Oui, depuis un an et quatre mois. Je suis à la retraite depuis plusieurs années. J'ai 66 ans. J'habitais à Paris. Dans mon appartement, j'avais la Wi-Fi, j'avais une box pour Internet, j'avais une télé, j'avais un ordinateur. Peu de choses. Et j'avais un téléphone sans fil, fixe sans fil. Et un portable, un téléphone portable.
Et vous meniez quel genre de vie ?
À ce moment-là, j'avais... On peut dire plutôt une vie culturelle. J'allais dans les musées, j'allais voir des expositions qui prolongeaient mes études d'histoire de l'art à l'école du Louvre, mon diplôme de l'école du Louvre. Mais vous voyez, je crois que c'est très difficile d'imaginer pour qui ne vit pas quotidiennement à côté d'électro hypersensibles à quel point notre vie a été bousculée. Complètement. On ne peut bien sûr pas aller au spectacle, ni aux expositions, mais même dans un magasin. C'est très difficile. Mais il y a pire encore. Si je devais être hospitalisée, ce serait un drame. Les hôpitaux sont remplis d'ondes électromagnétiques. C'est étrange. C'est étrange ce qui m'est arrivé. Oh, pendant un an, quand je remontais la falaise, en portant sous le bras des poids lourds, l'eau ou des planches avec des palettes, etc. Quand je portais tout cela, en tirant sur la corde, entre ciel et terre, comme ça, je me disais, mais est-ce vrai ce que je vis ? Mais vraiment, suis-je en vie pour vivre ce que je vis ? Alors maintenant, j'oublie un peu plus. On va et vient dans cette grotte, en y pensant moins.
Et vous ne vous connaissiez pas du tout avec Anne ?
Non, du tout. Anne m'a magnifiquement accueillie.
Je savais qu'il y avait des grottes dans les gorges du Verdon. Donc on allait dans les gorges du Verdon. Ouais, on allait dans des grottes et on a emprunté un petit sentier qui était assez dangereux, d'ailleurs il était interdit. Bref, on a essayé, mais malheureusement, on se trouvait peut-être à 500 mètres d'un barrage hydroélectrique. Donc ma mère, elle a commencé à être pas bien du tout dans les grottes, même si on captait pas le téléphone portable. Et là, ma mère, je l'avais jamais vue comme ça, parce que du coup, on avait fait plein de trucs et tout. Et elle était tellement mal, enfin moralement, puis il n'y a pas que ça, c'est que comme ça t'attaque le système nerveux, t'es dans un état de souffrance extrême, quoi. Donc c'est une des premières fois où je vois ma mère pleurer, en fait. Donc elle était comme ça, et elle ne savait plus ce qu'on pouvait faire d'elle, quoi. On en était à ce point-là, quoi. Tellement... Et là, on est rentré, on a dit, on arrête les dégâts, et on est rentré à Nice. Et en fait, c'est là où... par Robin des Toits, eu l'information qu'il y avait un rassemblement de gens électro-hypersensibles à Beaumugne. Et là, sur le document d'information, il y avait une photo avec marqué grotte. Et c'était un peu inespéré, quoi. Donc, du coup, on a appelé Henri, il a dit pas de problème. Et ma mère, elle est venue tester. Et une semaine après, on est venu s'installer, comme c'était bon.
C'était comment au début dans la grotte ?
Ben, au début, la grotte, elle était nue, quoi. Elle était tout. Voilà, c'était une grotte vierge. Elle était habitée que par des chauves-souris. Voilà. Et après, l'homme est arrivé.
Là, on est chez Henri et on remplit les bidons de 5 litres.
Un bidon d'eau chaude pour faire la vaisselle. Un bidon d'eau froide pour la cuisson des aliments. On repart. On va remonter.
Là, vous portez 10 litres.
Oui, là, je porte 10 litres d'eau. Voilà. On fait ça plusieurs fois par jour. Alors, c'est ou moi ou Bernadette. Hein, on se partage la corvée.
Ah, vous avez vu mon chat. Mais alors, il a élu domicile ici. Je vous assure que combien de fois je lui dis que si j'étais lui, je choisirais les tapis. Et non, il est toujours en train de patauger là, dans la boue.
Lui, alors, c'est un moteur.
Mais là, oh là, si je viande. On avait des loirs toute la nuit. On était réveillés par les loirs qui couraient sur la toile plastique. Et dès qu'est arrivé ce chat, qui était un tout jeune chaton, dès qu'il nous a découvert là, il est resté et il a fait partir les loirs. C'est un très bon chasseur. C'est un grand ami.
Minoucha. Minoucha.
Mais ma mère, elle a toujours été vue comme quelqu'un de complètement sensé dans son travail, etc. Je veux dire, elle n'était pas hypochondriaque, quoi. Elle n'était pas malade tous les 4 matins. Ce qui fait que personne n'a pris pour une folle, quoi. Personne ne dit « Non, mais ta mère, tu ne penses pas qu'elle a... voilà, qu'elle déprime. » Pas du tout, ses collègues ne disent pas du tout ça. Personne n'a remis en cause. Non. Ils savaient que c'est pas un choix, quoi, d'avoir abandonné ma petite sœur de 16 ans, de la vivre dans une grotte, comme ça. Enfin, tout le monde sait qu'elle veut s'en sortir de cette grotte.
C'est le plus dur, parce que là, il y a... Comment dire, moi, j'ai l'impression... Elisa a grandi, elle a 19 ans maintenant. J'ai l'impression d'avoir loupé plein d'étapes. Notre souffrance, elle se voit pas. Bon, moi, si, je deviens toute rouge, j'ai la peau qui brûle, tout ça, mais notre souffrance, elle se voit pas véritablement. Nous sommes handicapés, mais on a nos membres encore, nos jambes, etc., nos bras. Mais ça se voit, en fait, ce qui illustre la souffrance, c'est la manière dont on vit, la manière dont on erre, la manière dont on fuit, quoi, brutalement.
Et c'était un peu dur parce que... C'était subi, quoi. Pendant les 3 ans, il y avait des longues périodes où je la voyais pas. Et puis, pendant les vacances, là, c'était sûr que j'avais la possibilité de la voir. À l'heure d'aujourd'hui, l'avenir de ma mère, il est incertain parce que c'est sûr qu'elle pourra pas tenir dans ces conditions plus longtemps. Enfin, je sais même pas si elle pourra en survivre si ça dure plus longtemps. Bah franchement, je n'arrive pas à me projeter là, c'est vrai, ouais. Déjà, la première chose, je veux trouver une solution pour sauver ma mère, en fait, hein, déjà. Mais on est quand même dans une situation assez irréelle, moi je dis. Parce que la demande de recréer des zones blanches, ça va à l'encontre de la politique du gouvernement. Et ça, Nathalie Kosciusko-Morizet l'a bien écrit dans un courrier qu'elle a fait en réponse à une lettre de Michel Rivasi, de Annie Poursinoff et Jean de César, qui sont des députés et sénateurs.
Voilà. Vert ?
Oui, oui. Et elle a répondu, comme il n'y a pas de preuves scientifiques qui font le lien entre les symptômes de ces personnes et les champs électromagnétiques, il est prématuré de recréer des zones blanches.
Donc le message, ça veut dire n'ayez pas espoir, quoi. Enfin, on va pas revenir en arrière pour quelque chose qui n'est, entre guillemets, pas prouvé scientifiquement. Et en tout cas, on sait très bien que la toxicité, elle est prouvée. Simplement, elle n'est pas reconnue officiellement, c'est tout. Je veux dire, on laisse bien des parcs naturels, ou on décide de pas faire des routes dans ces parcs, par exemple. Alors pourquoi pas faire des espaces, quelques kilomètres carrés, dans chaque département où il n'y aurait pas de téléphonie mobile, d'internet sans fil, enfin de réseau de toute technologie sans fil, en fait. Voilà. Nathalie Kosciusko-Morizet dit que 97,7% du territoire est couvert.
Par la téléphonie mobile.
Voilà. Autant dire qu'après, le reste, c'est pas habitable, quoi. Je veux dire, si au milieu des glaciers, on s'en fiche d'avoir la téléphonie mobile, peut-être. Ici, quelle est la pollution qui est la plus étendue? C'est quand même en France et dans tous les pays industrialisés, c'est la pollution électromagnétique, c'est les scientifiques qui le disent. Et pourtant, c'est une pollution, contrairement à la radioactivité, où après, c'est très compliqué de décontaminer. Mais les champs électromagnétiques, il suffit d'appuyer sur « off » et il n'y a plus rien. Donc voilà, et c'est une pollution qui n'a pas de rémanence. Donc en fait, demain, je le dis quoi, demain on éteint des antennes et ma mère, elle peut vivre, quoi. Ça tient qu'à ça, en fait.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été spécial, Inès Lérault avec Les Électro-Sensibles, une émission diffusée pour la première fois en février 2012 et réalisée par Annabelle Brouard. Merci à Anne, à Bernadette, à Laure et à Marie Placet qui s'est occupée de cette rediffusion. Sachez que depuis la première diffusion de cette émission, Anne a dû quitter la grotte où elle habitait, la puissance des antennes de téléphonie mobile et des paraboles ayant augmenté aux alentours. Elle habite maintenant dans une écurie aux murs très épais, attenante à une maison forestière, toujours dans les Alpes. Différents soins, axés notamment sur la nutrition et la méditation, lui ont apparemment permis d'aller un peu mieux. Elle peut maintenant sortir quelques heures par jour et même faire ses courses. Alors sa fille est tombée, elle, amoureuse d'un militant électrosensible. Et ce Pied sur Terre, donc, qui avait été diffusé pour la première fois il y a 5 ans, a inspiré, sachez-le, un film documentaire, Zone Blanche, de Gaëlle Saint-Tré. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Liana Valken, notre stagiaire.